Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphrène.
Il aime écrire, il aime encore plus peut-être lire les lettres que d'autres ont écrites pour nous. Jean-Pierre Guénot n'est pas seulement énarque normalien, ancien directeur des éditions de Radio France et du développement culturel de la Bibliothèque nationale. Il conseille la direction de La Poste. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard puisque les lettres, précisément, c'est son domaine. On va explorer d'ailleurs cette question. Nous l'avions vu, Jean-Pierre Guénot, lors des commémorations de la guerre de 14 avec toute une série de publications sur les paroles de poilus qui ont fait le tour de la France. Il a aussi recensé des paroles de prêtres qui doivent bientôt faire l'objet d'un ouvrage qui sera publié en avril. Et en ce moment, il réfléchit à notre condition, bien malmenée par le Covid, écartelée entre le souffle du diable et le soupir de Dieu. C'est un ensemble de réflexions, de nouvelles ou de contes, de manière aussi de voir la vie à travers des séquences dont il va nous parler dans un instant. Il y a quantité de sujets qu'on peut aborder avec Jean-Pierre Guénot et on va essayer de faire une sélection parce qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes et on va voir aussi comment il présente les choses. Je vais commencer par deux mots, la prescription et la tergiversation. Bonjour Jean-Pierre Guénot.
Bonjour.
Merci de nous accompagner. On sait qu'avec vous, c'est multicarte, tout terrain en quelque sorte. Vous pouvez aborder quantité de sujets à travers votre regard. Alors justement, on parlait de la prescription parce que dans les infos, on cite régulièrement aujourd'hui l'affaire Camille Kouchner et le livre qui est sorti pour parler de ces questions extrêmement délicates. Vous estimez que le mot prescription, quelle coloration lui donnez-vous ?
C'est une abomination. La maladie d'Alzheimer, on dit que c'est celle du 21e siècle, mais il y a plus grave encore, parce que c'est une pathologie dont nous sommes victimes quand nous la subissons. Beaucoup plus préoccupante est ce que j'appelle l'amnésie volontaire, celle qui confine au délit. Et là, nous avons deux créations terribles, effroyables, qui sont au sommet de la vague actuellement, deux mots qui sont prescription et obsolescence. La prescription, eh bien, c'est la loi qui finit par effacer la loi, comme si le temps effaçait les traces. Alors c'est très très grave parce que il y a des alternatives par rapport à la prescription qui sont des sentiments très forts. C'est d'une part le remords des bourreaux et c'est d'autre part le pardon que peuvent accorder les victimes.
Et à votre avis, la prescription rend impossible cette démarche-là ?
Oui, tout à fait. Elle efface. L'homme n'a pas le pouvoir d'absoudre, d'effacer. C'est un pouvoir qu'on attribue à Dieu. Hein, c'est ce que disait François Villon dans la balade des pendus. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Quant à l'obsolescence, c'est quelque chose d'épouvantable parce que nous sommes maintenant capables de la programmer. Alors l'obsolescence, c'est la négation de la vie, c'est la négation du vieillissement. Nos objets sont obsolètes, on programme leur obsolescence, mais les êtres humains deviennent obsolètes aussi, les êtres vivants. Quand nous confinons nos chevaux de course, nos vaches laitières, nos poules pondeuses, avant de les abattre dans des abattoirs, quand nous confinons dans des Guantanamo de la vieillesse, dans certains EHPAD, les personnes âgées. C'est aussi une façon...
Vous avez toute une nouvelle là-dessus.
...de programmer absolument dans le souffle du diable et le soupir de Dieu. C'est aussi une façon de programmer notre propre obsolescence.
Et Pat, d'ailleurs, vous trouvez que ce n'est pas un acronyme, mais c'est un sigle qui n'a pas d'humanité.
Ah, il est épouvantable et vous verrez qu'il arrivera un jour où la notion de locataire et de propriétaire seront obsolètes. Nous vivrons tous en collectivité, quel que soit le stade de notre existence. Il y aura les épaves, ça sera pour les gens qui seront... parce qu'on peut être inactif et dépendant, c'est le cas des EHPAD, on peut être actif, donc on pourrait faire des EHPAI, des établissements pour personnes actives, et puis il y a les établissements pour personnes qui sont en vacances, en vacanciel, pour prendre ce mot atroce, concurrent du distanciel ou d'autres mots qui sont des anglicismes.
Jean-Pierre Guénot, quand vous dites prescription, ça empêche justement la démarche dont vous avez parlé, le remords, le pardon, etc. Vous êtes pour l'imprescriptibilité de tous les crimes, de tous les rapports à la justice, de toutes les questions qui concernent la justice, mais vous risquez d'embouteiller les tribunaux pendant des siècles, non ?
Oui, mais c'est une mesure technocratique. De toute façon, l'embouteillage auquel vous faites allusion, il est patent. Il nous déborde depuis très très longtemps. La justice est lente, par manque de moyens, en budget et en personnel. Nous souffrons d'amnésie, je le disais tout à l'heure. Ça fait des années et des années que l'intérêt général se délite, que le service public se délite. Alors ce qui est intéressant là, c'est de voir que les gens sont en train d'évoquer un monde d'après, mais ils oublient qu'ils sont totalement responsables du monde d'avant. La belle construction du Conseil national de la Résistance, reprise par De Gaulle en 1958, eh bien, nous ne cessons de lui porter atteinte. Moi, je pense que la Ve République, la Constitution actuelle, n'est pas arrivée à terme. D'aucuns songent à la remplacer, alors que le beau travail prescrit par le CNR n'est pas fini. De Gaulle n'avait rien contre le libéralisme. Il détestait autant l'ultralibéralisme que le stalinisme ou le nazisme. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il y a des enjeux d'intérêt général que nous ne pouvons pas livrer à la spéculation. Car si nous le faisons, nous scions les branches sur lesquelles nous sommes assis. Et qu'est-ce qu'on casse? Et qu'est-ce qu'on casse avec l'obsolescence, avec la prescription? Le lien social. Parce que tout ça favorise le rejet de l'autre. Et le rejet de l'autre, d'une certaine façon, c'est le rejet de soi-même. Il y a une très belle parabole de Saint-Exupéry. Il y a 10 ans, on a retrouvé 2 feuillets absolument inédits du Petit Prince. On ne sait pas où est passé le brouillon. Mais on a retrouvé 2 feuillets. Et l'un des feuillets est magique. J'ai été le premier historien, j'adore Saint-Exupéry, à l'avoir entre les mains. Dans la version définitive du Petit Prince, Saint-Exupéry dit que tous les habitants de la planète pourraient tenir sur une île dont ils se contentent de donner la taille. Nous étions 2 milliards d'habitants à l'époque. Nous serons bientôt, dans moins de 10 ans, 10 milliards de terriens. Et dans le brouillon, Saint-Exupéry était beaucoup plus précis. Il situait l'île et il détaillait son contenu. L'île, c'était Long Island. Quel symbole! Tout près de la Statue de Liberté, tout près de l'endroit où arrivent les immigrés. Et puis, il y avait tout le monde. Les jeunes, les vieux, les noirs, les rouges, les jaunes, les blancs. Personne ne manquait. C'était magique. Alors j'ai adapté le raisonnement de Saint-Exupéry à aujourd'hui. Bientôt 10 milliards d'habitants, tous pourraient tenir debout, collés, serrés, sur 1,5 fois l'île de Corse. Ça veut dire que nous ne sommes pas surpeuplés démographiquement ou physiquement, nous sommes socialement et économiquement surpeuplés pour 2 raisons. Le refus du partage et le grand gaspillage. Voilà. Donc tout ça est très important. Je crois que ce qui nous guette, c'est le rejet de l'autre, c'est le rejet de nous-mêmes. Et obsolescence et prescription sont des facteurs de délitement du lien social.
Tergiversation, Jean-Pierre Guénot.
Eh bien, c'est ce qui permet de ne pas agir. La tergiversation conduit à la procrastination. D'une certaine façon, nous ne sommes pas gouvernés, que ce soit en France ou dans beaucoup d'autres pays, parce que la judiciarisation de la société était telle que les gens n'assument plus le risque. Entreprendre, c'est risqué. Gouverner, c'est risqué. Il y a tout un tas de... L'action, c'est le risque permanent. Alors il y a un principe odieux, aussi technocratique que prescription et obsolescence, c'est celui du principe de précaution, qui justifie l'apathie, la procrastination, et cette tergiversation qui tient lieu d'action. La parole aujourd'hui est souvent celle du vide. Nous avons des gouvernants qui nous disent manifester leur sollicitude, leur empathie pour les victimes de la crise sanitaire. Ben, ça leur fait une belle jambe. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous sommes souvent dans une forme d'incohérence. Je ferai faire bientôt, dans une collection que j'ai créée aux éditions Hugo, un livre à Marek Alter, qui aura pour titre « Un monde sans prophète », dans une collection « Alerte », réservée aux lanceurs d'alerte. Et voilà, il n'y a pas de lanceur d'alerte dans le monde contemporain. Et Marek Alter me redisait l'autre jour, mais les gouvernants devraient montrer l'exemple. Si le président de la République, le Premier ministre et les ministres se faisaient vacciner demain soir, l'affaire serait vite menée. Ça n'est pas le cas.
Ah, vous estimez que, délibérément, ils ne se font pas vacciner?
Non,
ou alors ils n'y pensent pas parce que...
Non, mais je pense qu'il y a des faux fuyants. Quand on évoque les passe-droits, enfin, il n'y a pas de passe-droits. Quand on est en responsabilité, on a le devoir d'essayer de ne pas tomber malade. Puis il ne faut pas oublier une chose. Quand on refusait le vaccin... C'est craindre pour sa propre vie, mais c'est mépriser celle des autres. C'est l'oubli fondamental. Là encore, on est dans ce que j'avais appelé il y a bien longtemps dans un de mes livres, il y a plus de 15 ans, la société du tout à l'ego. Il faudrait en sortir. Et si au moins le virus couronné pouvait avoir un effet positif, ce serait celui-là. Nous faire comprendre que nous nous marchons sur la tête depuis bien longtemps.
Jean-Pierre Guénot, quand la société met toute son énergie dans un horizon très terrestre, la peur prend une dimension très forte, la peur d'être contaminé, la peur de mourir, etc. Quand on a un horizon qui, semble-t-il, est au-delà, se projette davantage, en fait, la peur métaphysique, on a moins peur pour son propre corps. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de peur aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de croyance nécessairement dans l'au-delà ?
Parce que les gens sont trop en orbite autour de leur nombril, très certainement. Et on commence à vivre, c'est ce que dit entre les lignes Antoine de Saint-Exupéry, notre vie ne commence à prendre son sens que lorsque nous tournons vers les autres. Et ça n'est pas la mort qui doit nous faire peur, c'est la mort des autres, c'est la disparition des autres, c'est celle que nous redoutons. Voilà, la vie...
Et l'autre devient un ennemi aujourd'hui.
Alors c'est terrible parce que nous sommes écartelés. Le souffle du diable et le soupir de Dieu, ce sont 30 histoires courtes qui racontent... qui racontent l'écartement permanent de l'homme entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, le virus couronné sert de révélateur. Nous sommes écartelés entre notre tendance à la solidarité et notre tendance à l'hostilité. Et très vite, l'ennemi, c'est l'autre. On se méfie de l'autre, on le rejette. Quel que soit l'avenir, je ne comprends toujours pas ceux qui n'ont pas compris que l'immigration est la loi fondamentale de l'existence. L'humanité n'a procédé que par des mouvements de population, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sanitaires. Et de plus en plus maintenant, les gens l'ignorent peut-être, la majeure partie des migrants aujourd'hui sont des migrants climatiques. C'est-à-dire qu'ils viennent de zones de leur pays qui sont devenues impraticables, invivables. Donc pour cela, de toute façon, il n'y aura pas de retour. Il peut y avoir un retour quand un pays retourne à la paix, quand son économie s'assainit. Mais quand, pour des raisons climatiques, une région est vitrifiée, l'émigré devient indésirable dans son propre pays. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus l'espace vital. Donc voilà, rejeter l'autre, c'est s'engager sur la voie d'une sorte de génocide homéopathique. Si l'un comme l'autre, Louis Dauphren, nous étions nés dans des pays sans espoir, si l'unique solution, l'unique espoir de vie pour nous, pour nos enfants, c'était de sortir, de partir, nous partirions tout de suite.
Est-ce que ça crée un précédent, le fait que les frontières soient fermées, que nous soyons restreints dans la mobilité ?
C'est quelque chose de terrible qui nous fait comprendre d'autres choses. Je dis souvent aux gens qui sont très radicalisés par rapport à l'immigration que, imaginons que vous ayez une mauvaise baguette magique et que demain vous soyez capable de tout vitrifier, de tout fermer, de tout cloisonner de façon totalement efficace, le monde exploserait en quelques mois. L'immigration, c'est aussi une soupape de sécurité.
Pourquoi ?
C'est ce que les gens oublient. Parce que nous refusons le grand partage, et puis parce que le grand gaspillage qui en fait partie. Un tiers de ce que nous produisons au quotidien passe à la poubelle. C'est quelque chose d'épouvantable.
Ça, c'est vrai que c'est la société du gaspillage aujourd'hui.
Oui, totalement.
Mais il y a du coup une bonne conscience écologique qui vient aussi par-dessus.
Oui, mais cette bonne conscience écologique est liée aussi à des choses très très étonnantes. Dans cette collection Alerte que je vais bientôt créer aux éditions Hugo et Hugo Doc, il y aura un livre qui essaiera de donner les vraies clés sur l'éolien, un livre intitulé La peste éolienne, sur le solaire, sur les énergies de substitution.
Vous allez vous faire des amis, Jean-Pierre.
Oui, et puis on est en train de tuer le nucléaire avec l'eau du bain. La voiture électrique est pour l'instant en grande partie une grande supercherie, dans la mesure où la plupart des matériaux qui composent ces voitures et leurs sources d'énergie ne sont pas recyclables. Ce sont toujours des enfants, des petits doigts du tiers-monde qui recyclent aujourd'hui non pas seulement les coques des supertankers amiantés ou des paquebots amiantés, mais aussi les écrans plats de nos portables, de nos smartphones et de nos ordinateurs, qui ne sont pas recyclables, mais qui contiennent des métaux très précieux. Donc on récupère tout.
Jean-Pierre Guénot, vous conseillez aujourd'hui la direction de la Poste. Le facteur aujourd'hui est l'un des derniers liens de service public.
Oui, Philippe Dorge, qui dirige une des branches les plus importantes de la Poste, la Poste Service Courrier Colis, S'il était cynique, il pourrait aussi aujourd'hui surfer sur la vague démographique, laisser les gens partir à la retraite. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a 70 000 facteurs, il en recrute. Parce que si le facteur disparaît, c'est le lien social qui va se dissoudre. Nous avons cherché à établir, par enquête, en travaillant, ce qu'était la raison d'être de cette branche de la poste, service, courrier, colis. C'est le lien. C'est le lien entre les hommes. C'est une formule qui a déjà servi pour les communications, pour les télécommunications, pour d'autres entreprises. Et ce lien, il ne faut pas le briser. Le problème, c'est qu'on est sur un marché paradoxal. Le courrier papier se raréfie, avec les mails, avec les SMS. Le colis explose, mais le colis fait l'objet d'un dumping. Nos plus gros clients, comme Amazon, à la Poste, sont aussi nos plus grands concurrents. Ils cassent les prix. Aujourd'hui, on viole la loi Langue tous les jours quand on achète des livres, parce qu'on vous offre les frais de port, ce qui est totalement illégal. Donc là, il y a un énorme problème, et tout l'enjeu, c'est de renouveler le métier des facteurs pour continuer à assurer leur présence,
indispensable. On renonce, Jean-Pierre Guénot, à mettre au pas les boîtes comme Amazon. Ça, c'est impossible.
Mais ça, c'est un problème qui dépasse une entreprise comme La Poste. C'est un problème de régulation. L'ultralibéralisme continue à faire beaucoup de dégâts. Les GAFAM sont quelque chose de monstrueux. Enfin, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Parce que dans les pays où ils sont arrivés à leur fin, les États-Unis par exemple, une fois qu'ils ont cassé le prix des colis, une fois qu'ils ont cassé le papier, ils rachètent le papier au dollar symbolique. Et alors là, les gens comprennent leur souffrance.
Donc les prix remontent.
Les prix remontent, et puis ils finissent par tout emboliser, par tout monopoliser. À la fois, c'est-à-dire qu'il y a une fausse concurrence qui débouche sur une cartélisation. Il y a des monstres, des géants, comme par exemple dans la téléphonie mobile, qui se partagent le marché. Et c'est-à-dire que la concurrence est un leurre.
Comment aujourd'hui un colis, normalement La Poste devrait s'enrichir considérablement avec l'accentuation, avec l'intensification de ce marché-là. Vous commandez un livre sur Amazon à 20h, vous l'avez le lendemain quasiment.
Oui, mais souvent avec une technique qui vous fait adhérer à un club et qui vous offre les frais de port. C'est une tricherie, c'est une tricherie universelle, c'est terrible. Et vous connaissez la condition des facteurs. Les facteurs ne sont pas trop maltraités par leur entreprise. Les livreurs, c'est une autre paire de manches. Ils n'ont aucune protection. Leurs uniformes, leurs vélos, leur protection sociale est souvent à leur charge. Nous en profitons tous. C'est quelque chose de terrible. C'est une forme de servage moderne.
Chez les facteurs, il n'y a pas des contrats. Tout le monde n'est pas fonctionnaire chez les facteurs.
Il y a de moins en moins de fonctionnaires, mais il y a quand même des lois du travail qui sont respectées. Des lois élémentaires, ce qui n'est pas le cas avec les livreurs.
Jean-Pierre Guénot, vous avez rencontré 70 prêtres et vous avez été touché par leurs paroles, parce que je reboucle avec la vocation, l'une de vos vocations, qui est de restituer aux écrits, pour la Première Guerre mondiale, les paroles de Poilu. Vous voulez faire la même chose avec les prêtres?
Oui, pendant longtemps, je me suis intéressé à des problèmes historiques ou sociologiques. Paroles de détenus, paroles de femmes, paroles de Poilu, paroles d'étoiles pour les enfants juifs cachés et sauvés pendant la guerre. Je m'intéresse maintenant à des entreprises contemporaines qui ont une spécificité. Les acteurs qui les font tourner sont tournés vers l'intérêt général, ce qui est remarquable à l'ère du tout à l'ego. Alors j'ai commencé avec l'armée. Paroles de nos soldats, où j'ai pris nos soldats aujourd'hui, dans le cadre des OPEX, les opérations extérieures, depuis 63 jusqu'à hier soir. Vous avez vu encore tous les morts au Mali récemment, oui. Plus de 50 morts au Mali en moins d'un an.
Il faut partir du Mali pour vous ?
C'est un autre problème. Les soldats sont au service de la nation. Ils sont au service des électeurs, des gouvernements qui ont été élus par ces électeurs. Après, je me suis occupé de La Poste avec un parole de facteur. Et en avril prochain, aux éditions Kiwi, va venir le tour des prêtres. Je ne suis pas dans le déni. Je ne contourne pas certains problèmes comme celui de la pédophilie, celui du célibat des prêtres. Mais ce n'est pas le centre de gravité de mon livre. Mon livre essaye de donner la parole aux prêtres, qui sont des gens admirables pour la plupart, qui ne pensent jamais eux-mêmes, qui ne parlent jamais d'eux-mêmes, qui n'écrivent à personne parce qu'ils sont très seuls. Alors j'ai surtout puisé dans leurs journaux intimes, parce que beaucoup ont une ruse pour laisser des traces. Dans le dernier tiers de leur vie, très souvent, ils publient, ils auto-publient, ils auto-éditent des livres qui n'ont aucune existence, et des journaux intimes. Et quel que soit leur âge, beaucoup tiennent des blogs, qui sont la forme moderne du journal intime.
Et vous avez fait appel à eux, vous avez passé un appel.
J'ai fait un appel qui a été relayé par la Croix, qui a été très, très productif. Et puis, je ne me suis pas empêché de regarder dans le rétroviseur. Je pense à l'abbé Munier, qui était le prêtre, il y a un siècle, des écrivains. Le journal de l'abbé Munier, je vous en recommande la lecture, n'a pas perdu une seconde d'actualité. Il y a belle lurette que l'Église dévisage ses problèmes. Donc, il faudrait faire qu'on ne redécouvre pas l'eau chaude tous les matins. Et beaucoup de prêtres appellent à la transformation de l'Église. Et on a la chance, sans doute, d'avoir un pape qui va dans ce sens.
Ces prêtres, vous les avez rencontrés systématiquement, ou vous préférez ne pas les rencontrer, simplement les lire ?
Le plus souvent possible, les rencontrer. À partir du moment où leur témoignage est fort, fait passer quelque chose, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de dialoguer avec eux. Donc les textes qu'ils m'ont envoyés sont toujours complétés par des entretiens et par un contact.
Et donc vous avez dû faire une sélection, parce que beaucoup ont peut-être répondu, vous en avez 70 au bout du compte, mais il y en avait plus qui s'étaient manifestés ?
Oui, et puis il faut que je finisse de raffiner mon travail avec le concours de mon éditeur. Le livre est encore très épais, peut-être le restera-t-il, je ne sais pas encore. Mais il faut que ça soit toujours fluide, toujours plus fluide et toujours plus efficace. J'ai classé leurs états d'âme, leurs espoirs et leurs désespoirs par mots-clés. Alors c'est surtout pas un dictionnaire, ces mots-clés ne sont pas classés par ordre alphabétique. C'est l'idée d'un de mes primo-lecteurs, d'un homme qui est breton et professeur de mécanique à Lamballe, et qui pour différentes raisons a été un des tout premiers lecteurs du premier brouillon de mon travail, et qui m'a permis de déboucher sur une structure du livre moins intellectuelle, mais beaucoup plus grand public et peut-être beaucoup plus efficace.
Un dernier mot, Jean-Pierre Guénot, quand on parle du souffle du diable et du soupir de Dieu, Dieu, le diable, sont des mots qui appartiennent un peu au monde d'avant. Normalement, on est passé à autre chose. Est-ce que ça, vous les utilisez comme simple formule, ou ça recouvre vraiment une réalité très forte pour vous ?
Non, il y a d'un côté ce souffle qui est toujours là. Le diable, il est en nous, hein, d'une certaine façon. On lui a donné une apparence un peu surréaliste, un peu magique, mi-homme, mi-bête. Le diable fait partie de l'être humain. Et puis Dieu, bah, c'est le grand taiseux. Voilà. Alors, nous sommes écartelés en permanence entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, on appelle ça comme on veut. Nous sommes écartelés donc en permanence entre ces deux tendances. D'un côté, le souffle terrible, dévastateur du diable, de la barbarie. De l'autre côté, le soupir du grand taiseux.
Merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Guénot. Je vous souhaite une excellente journée.